Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'AREN, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à débuter. Et au sommaire, l'info du jour, une centaine de manifestants mobilisés contre la dissolution de Défense Collective à Rennes. Deux reportages, d'abord dans l'ancienne prison Jacques Cartier qui accueillait des scolaires en visite hier, puis épisode 7 de la série de portraits d'Al Kennedy en compagnie de Franck Régis. Il y aura de la musique dont une nouveauté, et puis deux recommandations pour votre week-end. Bienvenue dans l'AREN. Et on lance l'émission d'information locale avec, comme d'habitude, l'info du jour, une que je sélectionne parmi d'autres dans ce qui se raconte dans la presse locale. Aujourd'hui, retour sur la manifestation du jeudi 4 avril d'une centaine de personnes opposées à la dissolution de Défense Collective, une dissolution prononcée la veille, mercredi, en Conseil des ministres. Alors Défense Collective, c'est un collectif rennais qui a été lancé en 2016 au moment de la loi travail. Il est situé à l'extrême gauche de l'échiquier politique et sa mission, c'est de former les militants et de les soutenir face à d'éventuelles inculpations. Un mouvement extrêmement dangereux aux yeux du Premier ministre Gérald Darmanin. Alors la manifestation d'hier, elle était interdite par la préfecture. Des forces de l'ordre étaient déployées en nombre pour l'encadrer, 8 fourgons de police. 26 personnes ont été interpellées avec contrôle d'identité et verbalisation à la clé. Mais la préfecture d'Ille-et-Vilaine précise qu'elle n'a relevé aucune dégradation pendant la manifestation. Défense Collective peut en tout cas compter sur le soutien de l'Union syndicale Solidaire 35 qui y voit une dérive autoritaire du gouvernement. Même si Solidaire ne partage pas l'ensemble des points de vue et pratiques du collectif dissous, eh bien il s'oppose fermement à cette décision et de rappeler qu'elle fait suite à une demande de députés d'extrême droite. Un pouvoir, ce pouvoir de dissolution, par ailleurs apparu en 1936 pour lutter contre les milices d'extrême droite suite à une tentative de coup d'État, puis modifié à plusieurs reprises jusqu'à la loi séparatisme de 2021, aujourd'hui en vigueur. Allez, après cette info du jour, on passe à un premier reportage. Jeudi 4 avril, l'association Champ de Justice proposait à des collégiens et lycéens de rentrer dans l'ancienne prison Jacques Cartier à Rennes. Un parcours les attendait, construit autour d'un délit fictif, une façon de rapprocher le monde de la justice des citoyens. Vous allez entendre le bénévole en charge de cette proposition, un ancien détenu et puis deux élèves du lycée Théodore Monod au Reux.
Bonjour.
Bonjour.
Elle est lourde.
Toute seule,
ouais, je suis toute seule.
Moi, je peux ouvrir.
Ça me va, merci. Je pensais qu'il y avait une petite porte dans la grande porte.
J'ai pas pu la clé. Mais ils entrent juste là, dans la salle d'audience.
Bonjour. Alors, monsieur Vert, levez-vous s'il vous plaît. Vous êtes Kevin Vert ?
Oui.
Est-ce que vous avez un avocat aujourd'hui, monsieur ?
Oui.
Qui est votre avocat ?
Maître Soleil.
Moi, je suis Olivier Pogam et je fais partie de l'association Champ de Justice. Je suis bénévole dans cette association depuis à peu près un an. Bah, en fait, je l'ai rejointe parce que j'étais en retraite en fait l'année dernière et je me suis inscrit sur le site France Bénévolat et parmi les offres, de poste, si on peut dire que ça comme ça, qui était proposé, ben, j'ai été particulièrement séduit par la vocation de l'association, le fait qu'il y avait des projets, etc. Donc je me suis vite intéressé à cette association. J'avais jamais été visiter la prison Jacques Cartier, même pas aux journées du patrimoine de 2022, puisqu'il y a eu une première vague. J'y suis allé là par contre en 2023, mais non, c'est plus l'objectif un peu de rapprocher le grand public du monde de la justice qui m'a séduit et bon, j'ai rencontré le président qui m'a voilà, me parler un peu des différents projets qu'il y avait. Et ce qui m'a séduit, c'est qu'en fait, finalement, on reste un peu dans une logique professionnelle, si on peut dire, de gestion de projet, etc. Donc, il y avait, ça me permettait d'être un peu en déconnexion douce par rapport à mon ancien métier.
Et vous êtes sur quel projet, vous, dans
Alors là, je suis principalement sur ce projet-là de journée de sensibilisation, justice enfermement.
En milieu scolaire ?
En milieu scolaire, absolument. Donc là, sur les 4 demi-journées, on a 2 lycées et 2 collèges. Donc cet après-midi, c'est un lycée d'Ureux, le lycée Théodore Monod. On a eu le collège Théodore Monod aussi, mais de Verne ce matin. Et puis on a à nouveau un collège, collège des Ormeaux demain matin, et lycée de Guerre dans le 56 qui vient demain après-midi.
Comment se déroulent ces demi-journées ?
Alors les demi-journées, il faut savoir qu'il y a déjà eu un petit travail en amont au sein des établissements scolaires. Pendant en gros le premier trimestre, les professeurs ont préparé un peu leurs élèves au fonctionnement de la justice, leur ont permis un peu de voir un peu les notions générales. Il y a des avocats également du groupe de défense des mineurs qui sont intervenus dans les classes pour parler aussi un peu de tout ça. Et donc là, aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le concret. Donc l'idée, c'est de leur faire suivre un parcours à partir d'un délit fictif, en fait. Donc qui commence avec une étape en poste de police, audition, etc., des prévenus, avec leurs avocats, notification de leur mise en garde à vue. Et puis là, on est présentement dans l'audience, en fait. À l'issue de l'audience, donc, ils vont être condamnés et ils iront après ils seront accompagnés jusqu'au quartier des mineurs, puisque dans cette prison Jacques Cartier, il y a eu des enfants mineurs jusqu'à dans les années 2008, donc peu de temps avant sa fermeture. Et donc, ils vont pouvoir voir de visu les cellules. Et puis, il y a également un temps un peu d'échange informel qui est prévu à la fin avec tous les professionnels qui sont là, quoi.
Justement, ces professionnels, qui fait vivre là cette reconstitution
On a eu pas mal de chance parce qu'en fait, on a pu travailler avec beaucoup de partenaires qui se sont vraiment mobilisés. Donc, d'une part, on a travaillé au niveau là des acteurs avec des étudiants de l'association S'éveiller. C'est des étudiants en droit de l'université de Rennes qui ont constitué cette association. On a aussi des vrais professionnels de justice, donc principalement des avocats, mais qui jouent le rôle également de procureur ou de président. C'est ce qui se passe en ce moment. Et puis par ailleurs, on a sur l'ensemble du parcours des surveillants, d'anciens surveillants qui ont travaillé à Jacques Cartier, des conseillers d'insertion et de probation également. C'est d'autres métiers, mais c'est intéressant aussi de les rencontrer. Et puis aujourd'hui également, on a un ancien détenu qui a été incarcéré dans cette prison peu de temps pour insoumission. Donc les élèves peuvent ainsi rencontrer à la fois des professionnels de justice et puis des gens qui sont passés dans la prison.
Ça sert à quoi tout ça ?
Déjà, l'objectif de l'association, moi qui m'avais effectivement un peu interpellé au démarrage, c'est un objectif un peu générique de rapprocher le grand public du monde de la justice. Et puis il y a un autre objectif qui est, dans le devenir de cette prison, de pouvoir créer un lieu de sensibilisation, de médiation, on dit souvent, pour le grand public. Et on trouve que par ce type d'événement, on préfigure un petit peu des choses qu'on pourrait organiser dans le futur espace qui deviendra quand la prison sera transformée.
Puisqu'on rappelle que Champ de Justice avait proposé donc un projet d'espace plutôt muséal au sein de cette ancienne prison,
oui.
Qui verra peut-être le jour. Il y a eu des ateliers menés par la ville pour imaginer le futur du lieu, en fait.
Oui, absolument. Rennes Métropole, donc, qui a acquis le bâtiment en 2021, a mis en place des ateliers participatifs en 2022-2023, auxquels, effectivement, pas mal de personnes ont participé, dont des personnes de Champ de Justice. L'idée du musée est un petit peu écartée maintenant. C'est plus un lieu de mémoire, parce que des musées sur la justice, il y en a dans d'autres lieux, notamment à Agen. Il y a l'École nationale de l'administration pénitentiaire où, par exemple, il y a un musée en construction. Donc on n'est plus, nous, tout à fait sur le musée au sens strict, mais plutôt sur un lieu de mémoire, à la fois des lieux, de l'histoire de la prison, et puis de la justice. Et donc c'est à travers ces objectifs que l'on anime un peu ce type de projet.
Et dernière question, il y a donc eu une demi-journée ce matin, une là en cours l'après-midi où on se rencontre.
Oui.
Il y aura d'autres reconstitutions demain. Qu'est-ce que vous avez observé de ce que ça fait naître chez les collégiens, lycéens qui participent? Est-ce qu'il y a peut-être un côté... Enfin, ça peut faire un peu peur quand même,
oui,
fascination.
C'est vrai. On leur a dit d'ailleurs ce matin en accueil que si certains d'entre eux étaient un peu perturbés par les lieux, ce qui peut être tout à fait le cas parce que c'est quand même très prégnant, qu'ils n'hésitent pas à sortir avec un professeur, prendre l'air 5 minutes. Ce matin, on a trouvé que les collégiens étaient vraiment très attentifs. Ils ont été très très attentifs, notamment pendant l'audience. Alors après, ils ont été un peu pris par l'ambiance de la prison, je dirais, avec tout ce que ça peut comporter. Pendant la dernière étape où il y a cet échange un peu avec les différents acteurs, ils ont posé des questions assez pertinentes, parfois un peu naïves, mais finalement, il n'y a pas de mauvaises questions sur la justice, sur à partir de quand on peut être incarcéré, à partir de quel âge, etc. Okay. Donc on a trouvé le public plutôt attentif et intéressé.
Alors, Madame Jaune et Monsieur Vert, il vous est aujourd'hui reproché d'avoir à Rennes, le 3 avril 2024, frauduleusement soustrait des jeux vidéo et une PlayStation 5 au préjudice du magasin Micromania, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 7 jours, sur la personne de Monsieur Rouge. Aujourd'hui, le procureur de la République a décidé que vous serez jugé selon la procédure de comparution immédiate.
J'étais venu visiter la maison d'arrêt lors des journées du patrimoine il y a 2 ans. Et là, j'ai découvert l'existence de Champs de Justice. Donc j'ai adhéré à Champs de Justice. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Christophe, voilà. Et j'ai été incarcéré ici, par surprise un peu, en novembre, le 30 novembre 1975. Et j'en suis ressorti quelques jours après, début décembre 1975. Et ensuite, j'ai été jugé au Parlement de Bretagne, à ce qui s'appelait alors le Tribunal permanent des forces armées, en mars 1976, et condamné à une peine d'incarcération ferme que j'ai purgée à la maison d'arrêt de Nantes. Donc j'ai une petite expérience carcérale de quelques mois, mais uniquement de quelques jours ici à Jacques Cartier.
Combien de mois
La condamnation, c'était 8 mois ferme à l'époque, quand on refusait de faire son service militaire.
Puisque voilà, vous avez été condamné pour insoumission.
C'est ça. Ouais.
C'est différent de l'objection de conscience.
Voilà, parce qu'en fait, j'avais une réponse négative à ma demande de statut d'objecteur de conscience. Donc à partir du moment où on n'obtenait pas le statut, soit on rejoignait son affectation, soit on devenait insoumis, c'est-à-dire pas déserteur, parce que comme on n'avait pas été incorporé, on ne pouvait pas déserter, mais voilà, ça s'appelait insoumis, et le délit d'insoumission était puni d'une peine jusqu'à 12 mois de prison ferme.
Quel souvenir vous en gardez ?
Ben, j'ai été très marqué, profondément marqué par cette incarcération à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que je m'attendais bien à être aux arrêts dans la caserne où j'ai passé mes 2 premières nuits, à la caserne Foch, là, boulevard de la Tourneuverne. Et dans la journée, j'ai été présenté au médecin militaire, à l'hôpital militaire. Et en fait, le psychiatre militaire nous a réformés. Donc du coup, nous n'étions plus sous la main de l'armée. Et donc, nous avons été conduits de la caserne Foch à la maison d'arrêt Jacques Cartier. Et pour moi, c'était un choc parce que je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Et les conditions de détention, comme on était dans une forme de lutte qui passait à l'époque par la grève de la faim, on était en grève de la faim. Donc ici, on a été mis dans les cellules à l'isolement, donc coupé des autres détenus, et avec pour toute promenade une toute petite cour qui existe encore, qui est une espèce de pièce, en fait, dont le toit est grillagé. Et donc on ne pouvait même pas voir la couleur du ciel. Quand on avait 1 heure de sortie, c'était vraiment très oppressant. Voilà le souvenir que j'en ai. Alors pourquoi je suis revenu il y a 2 ans visiter cette maison d'arrêt ? Parce que pour moi, c'était une vraie opportunité de retrouver ces lieux. La maison d'arrêt de Nantes, où j'ai été plusieurs mois, ayant été détruite, c'était le seul lieu d'incarcération que je pouvais encore voir de mes yeux. Puis j'avais besoin de me remémorer ces lieux, de me remémorer cette période de ma vie sur laquelle j'avais mis un couvercle, en fait, pendant très longtemps.
Vous aviez 18 ans ?
J'avais 21 ans quand j'ai été incarcéré, oui. Mais je vivais dans un monde qui était bien loin de la délinquance, bien loin de la prison, etc. Donc découvrir tout ce monde-là, ça a été pour moi quand même une épreuve forte.
Voilà. Ça paraît délirant, vu d'aujourd'hui.
Bah oui, le service obligatoire n'existe plus, donc il n'y a plus une peine. Mais les témoins de Jéhovah qui refusaient de faire l'armée, eux... venaient ici, il y en avait de très nombreux ici, ils avaient une peine de 24 mois ferme, 12 mois pour insoumission, plus 12 mois pour refus de porter d'uniforme. Donc ils avaient un deuxième chef d'inculpation, ce à quoi nous avons échappé, on ne nous a pas présenté l'uniforme. Voilà. Ah oui, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des centaines de jeunes témoins de Jéhovah et militants objecteurs de conscience sans statut ou insoumis comme nous dans les prisons françaises à l'époque, dans les années 70.
Et vous, ce qui motivait votre refus de faire votre service militaire, donc c'était donc que vous étiez militant peut-être dans des...
À l'origine, c'était une motivation, je dirais, humaniste. Et accompagné aussi de motivations politiques. C'était l'époque du projet d'extension du camp du Larzac, donc on était opposés, on militait contre l'extension du camp du Larzac. Et ça suffisait quand on mettait ça dans sa lettre de demande de statut d'objecteur pour qu'on nous le refuse.
Le camp du Larzac, c'était un camp de l'armée de terre, et le projet d'extension, il a finalement été abandonné dans les années 80.
Mais je refusais pas du tout de servir la société, et d'ailleurs... Je l'ai utilisé dans ma défense devant le tribunal des forces armées quand je suis passé ici en mars 76. J'ai dit que j'étais tout à fait d'accord pour passer 2 ans de ma vie au service de la société. Et je l'ai fait volontairement. J'étais permanent d'un foyer d'accueil et d'hébergement pour sans-abri, un peu comme Emmaüs, si vous voulez, à Nantes pendant 2 ans. 1 an avant mon incarcération. Et une autre année, après avoir purgé ma peine, je suis reparti travailler 1 an bénévolement dans ce foyer d'hébergement. Voilà. Donc c'était pas de l'associabilité, c'était juste une opposition à la conscription et à ce qu'on appelait à l'époque l'emprise de l'esprit militaire sur la société. Quoi. Voilà.
Alors ça s'est passé comment, cette décision d'aller voler ensemble?
C'était avant qu'on prenne le métro. Elle m'a dit qu'aujourd'hui elle voulait une PS5. Je lui ai dit que j'avais pas d'argent. Je l'ai dit à la police, j'ai pas de revenus, je comprends pas. Enfin, je voulais juste lui faire plaisir, je suis amoureux.
Vous savez que c'est pas du tout ce que vous avez pu dire en garde à vue, ni tout à l'heure au début de l'audience.
Oui, je sais, elle me forçait, à chaque fois elle me demande de faire des choses comme ça.
Donc vous reconnaissez toujours votre participation, sauf que désormais vous indiquez que vous avez agi à la demande de Madame Jaune.
Oui. Bonjour, moi je m'appelle Titouan Odig, du coup. Je suis au lycée Théodore Monod, Aureux. J'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans, du coup.
Et bonjour, moi c'est Vita Noël, et je suis élève aussi au lycée Théodore Monod, et je vais avoir aussi 18 ans.
Ma première question, c'est de vous demander, si je vous dis justice, vous, ça vous évoque quoi, ce thème-là? Est-ce que vous aviez déjà des connaissances? Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse ou pas, vous me dites?
Oui, c'est un thème qui est intéressant, parce que justement, on est en classe de droit, en option droit. Du coup, qu'est-ce que ça m'évoquerait? Je sais pas, le système pénal, tout ça. Donc, tout ce qui est peine, ou même juste les réparations.
Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme monde, et juste de savoir un peu plus, d'approfondir en fait ce monde-là qu'on ne connaît pas vraiment trop.
Et si vous êtes en option droit, c'est que vous pensez vous orienter vers les métiers du droit?
Pourquoi pas, en vrai, par exemple là, il y a eu Parcoursup qui est passé il n'y a pas longtemps. Moi j'ai mis la fac de droit de Rennes. Je trouve que le droit c'est assez large comme secteur, c'est pour ça que ça peut être assez intéressant. tout ce qui est avocat ou juge, c'est vrai que ça rend bien ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de métier particulier.
Bah pour moi, c'est pas. En fait, avec l'option droit, j'ai vu que c'était pas quelque chose qui allait plus m'intéresser que ça parce que c'est rigoureux, c'est méthodique. Moi, je suis pas trop dans ces critères-là pour mon futur métier.
Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans l'ancienne prison Jacques Cartier ?
Oui. Mais pour nous, c'est la première fois en tout cas.
Comment vous vous sentez dans ce lieu ? Comment vous décririez, je sais pas, l'ambiance que vous y... Comment vous vous y sentez ?
Comment dire ? C'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus spacieux, beaucoup plus. Bon, ça reste un petit peu quand même lugubre. Mais en fait, c'est pas si. Enfin, c'est presque beau.
C'est assez impressionnant, je trouve, au niveau de l'architecture de cette prison-ci.
Et ma dernière question, c'était de vous demander, si je vous dis justice, un peu dans l'imaginaire collectif qu'on a, est-ce que vous, vous pensez à une série ou à un film en particulier qui vous a marqué sur le champ judiciaire ?
Bah, moi, je connais une série, mais ça reflète vraiment pas... C'est Orange is the New Black, mais ça se passe aux États-Unis et ça reflète vraiment pas, au final, la vérité... de la vie en prison des personnes.
C'est un peu plus romanesque, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plus que, aussi au niveau d'une comédie que la réalité.
J'avais vu un film sur Netflix avec le monsieur qui a fait Creed.
C'est avec un avocat, commis d'office plus ou moins.
C'est dans les années 60-70 qui défend les droits des Noirs américains.
Aux États-Unis du coup. Et qui va du coup dans un petit village d'un état du Sud. Pour défendre leurs droits.
Mais je retrouverai le nom sinon à partir de ça.
Et ce film, je l'ai retrouvé, c'est La Voix de la Justice, sorti en 2019 avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et d'autres.
La sanction. En France, il y a le principe d'individualisation des peines, c'est-à-dire que le tribunal, pour apprécier les sanctions à prononcer à votre égard, doit retenir votre personnalité, les circonstances de fait, votre attitude aussi pendant la garde à vue et à l'audience, et tout l'ensemble de votre environnement familial, amical, etc. Moi, je suis inquiète pour Monsieur Vert. Je vais commencer par Monsieur Vert. Je suis un peu inquiète pour Monsieur Vert, qui est complètement désœuvré alors qu'il n'a même pas fini sa scolarité. Compte tenu de la violence des faits qui lui sont reprochés, je vous demanderai de prononcer à son encontre une peine de 12 mois d'emprisonnement, donc 4 mois avec un sursis probatoire, ce qui fait 8 mois ferme. Madame Jaune, elle n'a pas de casier judiciaire, mais son attitude interroge quand même dans la mesure où elle est là, mais elle assume pas. Compte tenu de ces éléments, je vous demanderai de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis.
It's many miles I've sailed to reach Trobriga Bay, and I've many more to go before I find my soul. When I reach Trobriga's shores, the silence will endure, and the grace that I may find, my enemy provides. Thank you. have lived through bitter days, and your image now prevails on the waters that I sail.
Briga Bay par Ozin Leach sur Canal B. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Titre extrait d'un album Cold Sea, c'est sorti le 8 mars dernier. Le premier album solo pour ce songwriter irlandais et enregistré dans l'ancienne école d'un petit village irlandais face à la mer. Ça fait rêver. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Un programme à écouter sur le 94.0 mais aussi en ligne sur canalb.fr, que ce soit en direct mais aussi à travers les podcasts qui sont mis à jour quotidiennement pour l'émission d'information locale, mais aussi pour toutes les émissions réalisées par des salariés et de nombreux bénévoles. On continue cette émission avec un second reportage. Samedi 6 avril, le tiers-lieu de l'ESS Cargo à Villejean organise une fête de quartier. Ça s'appelle l'écho des talents de Villejean. Ça se passe de 11h à 17h sur la dalle Kennedy. Et le public pourra découvrir une scène ouverte, un village associatif, une friperie gratuite, mais aussi un atelier de réparation de vélos, un café convivial et même une chasse au trésor. Le détail est à retrouver en ligne sur esscargo.fr. Il se trouve que parmi les artistes mis en lumière, il y a un Villejeanais, un musicien, Franck Régis, alias Keys. On lui consacre l'épisode 7 de Dal Kennedy, série de portraits d'habitants.
Une qualité. Ah, j'aime bien quand les gens parlent de ça par moi-même, parce que parfois je ne sais pas quoi dire en ce qui concerne les défauts. Mes qualités, je dirais mon respect, la politesse. La sociabilité.
Cette série de portraits part d'un constat, la faible place accordée en radio aux habitants de quartiers populaires. Alors toute l'année, je vous propose de les écouter. Épisode 7, Franck Régis.
Un défaut, j'en ai pas.
Alias Keys.
Comme défaut, qu'est-ce qu'on a l'habitude de me reprocher ? On me dit, j'ai fait toujours avoir raison. Je justifie même l'injustifiable. C'est-à-dire même si je fais une bêtise et que je dois dire juste « Ah oui, c'est vrai ». Je vais quand même expliquer pourquoi j'ai fait la bêtise pour que ce soit compréhensif.
Yolana, Franck Régis. Je me prénomme Franck Régis. Me sois fala en 2020. Je suis arrivé en France en 2020. Et ma zona est bourbeux, c'est ce, béoué, d'amma boy, d'amma tille, d'amma hier. Et tous ceux qui veulent découvrir ce que je fais, ils peuvent aller sur YouTube, Instagram, TikTok et tout. Mon prénom, c'est Franck Régis. Mais personne ne m'appelle pratiquement pas Franck Régis, à part ceux qui me connaissent de plus proche. Mais dans le quartier Villejean, et sur la scène, tout le monde me connaît au nom de Keys, K-E-Y-S. Et du coup, c'était encore quoi l'autre question ?
L'âge ?
L'âge, ah, d'accord, 29 ans.
Depuis quand vous êtes musicien ?
En principe, depuis 2010. Sauf que c'est vraiment en 2020. D'ailleurs, c'est en 2020 que j'arrive en France. C'est depuis 2020 que je prends ça un peu au sérieux.
C'est le moment où je vous demande d'où vous venez alors ?
Du Gabon.
Ok.
Voilà, du Gabon, Afrique centrale.
Comment est-ce qu'on peut décrire le genre musical ?
Le genre, il y a du hip-hop, du rap, afrobeat. J'ai envie de dire du compas parce que là, récemment, j'ai un son que je dois faire pour un mariage. Et justement, ils veulent du style compas, donc du coup, j'intègre ça dedans.
C'est quoi ce style ?
Ça fait un peu antillais. Mais je ne fais pas du rap dur, du rap pur, du rap engagé, non, c'est pas ce que je fais. Je fais un rap où je peux parler même de violence faite aux femmes. Je peux parler d'un jeune dans un quartier qui veut s'en sortir, mais en rappant. Pourquoi tu ne m'as pas quitté plus
tôt ? Pourquoi ? Vous chantez et vous produisez aussi là, vos instrumentaux ?
En fait, là, il y a plusieurs possibilités. C'est un champ vraiment très ouvert parce qu'il y a la possibilité d'acheter directement des instrus. Et il y a la possibilité, justement, ce que je fais, c'est que parfois j'ai des mélodies dans la tête. On va rappeler, en fait, justement, que j'ai été chef de chorale à l'église catholique. Donc du coup, je peux par exemple avoir beaucoup de musique dans ma tête, mais pas forcément les produire. Mais je peux demander à l'ingénieur en son de produire tel son de telle façon, et puis le résultat il sort.
Est-ce que vous produisez face à un public dans différents cadres ?
Ah oui, ça c'est carrément la partie que j'aime. C'est fait pour ça. Je fais pas de musique juste pour moi, et je me suis rendu compte que je pouvais faire de la musique pour que les gens se sentent en partie concernés. Et donc oui, je me produis. Et devant les grands événements, comme le quartier d'été qu'on a fait l'année dernière. Je me produis au niveau des associations, dans les mariages. Ouais, je pense que c'est les trois principaux axes en fait, que je fréquente beaucoup.
Vous dites que vous êtes arrivé en 2020 en France. Mmh. Comment est-ce qu'on peut décrire la vie au Gabon ?
Gabon, dans le contexte où j'étais à l'époque, situation compliquée, besoin de refaire sa vie, besoin d'une nouvelle aventure pour pouvoir se sentir revivre, ce qui m'a fait partir.
Donc vous y avez vécu jusqu'à 25 ans ?
C'est ça, je suis né, j'ai grandi, j'ai appris et je suis arrivé en France pour les raisons d'études.
Ce que je ne vous ai pas demandé, c'est si vous parliez d'autres langues que le français.
À part ma langue natale, le fan. Ça s'écrit avec un F, F-A-N-G. Et c'est la langue majoritaire du Gabon, quoi. C'est un héritage de langue qu'on laisse et qui ne va pas disparaître, quoi, en fait. Et ce n'est pas un complexe pour nous, parce qu'il y a certaines ethnies où ils sont un peu gênés de parler leur langue et tout. Mais nous, on est vraiment...
Fiers.
Ouais, on est fiers.
Vous avez gardé beaucoup de liens ou d'attaches avec le Gabon ?
Ah oui, énormément. J'ai toute ma famille, j'ai mes deux filles. D'ailleurs, ma première fille, elle s'appelle Keïs, comme mon nom de scène. Et ma deuxième fille s'appelle Diams. J'ai mes petits frères, j'ai tout le monde.
Et les liens, c'est à distance ou vous y retournez aussi ?
Ah non, c'est à distance. Depuis que je suis arrivé en 2020, je ne suis pas retourné. Et d'ailleurs, le 26 janvier, vous allez devoir malheureusement... tombé sur un son titré Hommage, parce que j'ai perdu ma maman, elle a fait un AVC, et j'ai sorti un son Hommage quelques jours plus tard. Si j'avais pas fait ça, j'aurais eu un gros regret encore, quoi. Et je pense que au travers de ce son, j'ai quand même pu l'immortaliser.
Et vous pensez que vous y retournerez au Gabon ?
Si, je pense que je vais retourner juste pour faire quelques temps et puis je reviens.
À ma maman, je suis désolé, j'étais pas là quand t'es tombé. Écoute ma prière, t'attends en B.
Et est-ce que je peux vous demander administrativement comment vous êtes arrivé ?
Administrativement ? J'avais fait Campus France. Campus France, c'est en fait les organismes français en partenariat avec des établissements en France et les pays dont ils sont installés. C'est des étudiants, quand ils veulent venir étudier en France, c'est un canal. Je pense que c'est pratiquement le moyen principal pour des études en France, quoi.
Et vous êtes venu étudier quoi ?
L'histoire. Cette année, je finis avec ma licence histoire. J'avais validé le semestre dernier, l'année dernière, et sauf le semestre 6, j'avais juste trois matières à reprendre. Et ce que moi, j'ai repris cette année. Beaucoup ne savent même pas que j'ai un diplôme aussi, que voilà. Hormis la musique... j'ai aussi certaines capacités intellectuelles.
Et donc étudiant à l'université Rendo ?
Exact.
Et alors est-ce que vous poursuivez après ou vous mettez...
Je mets ça de côté parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'attaches à ce qui concerne le commerce. Donc, du coup, là, je suis dans une école de commerce que je commence en septembre. Toujours à Rennes. Je vais pas partir comme ça serait trop facile.
Comment vous vous êtes retrouvés dans le quartier Villejean, ici à Rennes? Donc vous êtes arrivés pour les études.
Ouais.
C'était le quartier le plus proche pour trouver un logement?
Déjà au début, je ne suis pas directement arrivé sur Villejean, non. À Rennes, oui, directement je suis arrivé parce qu'en fait c'est ma cousine qui a été mon garant en ce qui concerne l'hébergement. Depuis 2021, quand j'ai eu un petit boulot, et j'ai pris mon envol et là ça fait 3 ans que je loue, je suis chez moi. Alors quel regard je porte sur Villejean? À vrai dire, c'est un quartier que j'aime bien. Parce qu'en fait, déjà, c'est bien desservi. Et il y a tout ce qu'on veut autour de Villejean. Il y a des transports, il y a des magasins, il y a des centres de divertissement. Il y a l'implication forte des associations. Et sachant que j'ai commencé à la maison de quartier de Villejean, et c'est un lieu où j'ai pas mal de respect qui m'est donné et que j'en donne. Et parce que aussi principalement, j'ai commencé dans l'association d'SPSF 35. Et je suis toujours dedans. SPSF 35, solidarité et partage des savoir-faire. Et du coup, je suis là-dedans et je suis bénévole, mais je suis aussi artiste de l'association dans le pôle JTL et Jeunes Talents, quoi. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a des événements qui se passent dans le cadre associatif, on passe par SPSF 35 pour pouvoir solliciter une prestation. Et puis, il y a le côté aussi où je trouve dommage que Villejean et une certaine image négative. Après, je pense que si elle est négative, c'est parce qu'il y a quelques observations aussi. Il y a du voyoutisme aussi qui s'agrandit. Il y a beaucoup de personnes qui traînent, par exemple, sur la dalle et qui ne montrent pas forcément qu'il y ait un sentiment de sécurité, surtout pour les personnes âgées et pour les jeunes personnes, en particulier pour les jeunes filles. Donc du coup, c'est ça. Et ce sentiment-là fait en sorte que ce soit dommage. Mais sinon, en vrai, quand on connaît Villejean, c'est un quartier qu'il ne faut même pas partir d'ici. Quoi. Parce qu'il y a pire ailleurs. Si j'ouvre une association, parce que j'ai ce projet d'ouvrir une association, je vais l'ouvrir à Villejean. Et cette association consistera à aider les jeunes à écrire leur premier son et puis voir comment je peux les accompagner dans leur premier studio. Découvrir c'est quoi le métier d'ingénieur en son, comment se présenter au micro, leur faire participer à un événement, ils peuvent chanter ce morceau, organiser des petits concours. Donc c'est ce projet-là que j'ai.
Est-ce qu'il y a justement des lieux que vous fréquentez plus que d'autres dans le quartier, que ce soit des commerces, des associations, je sais pas moi, des restaurants
Ouais. Je travaille dans un centre commercial.
Ah, mais donc vous avez les études, la musique et un... C'est que vous le considérez comme quoi? Un boulot alimentaire?
Je suis en CDI, mais ils respectent beaucoup mes emplois du temps. Je suis en caisse. Et voilà, j'avais commencé avec les rayons. C'est d'où, en fait, m'est venue l'envie de m'inscrire dans une école de commerce. Il y a un truc que j'aime beaucoup, la relation client. On a gardé une très bonne relation pour tous les clients. Ils arrivent même jusqu'à voir parfois le directeur, le manager, pour dire que ce caissier, ce monsieur, c'est quelqu'un de bien extraordinaire. Et donc, je les remercie pour ça.
Donc, il y a ce centre commercial que vous fréquentez.
Exactement. Et ensuite, il y a les kebabs.
Alors, lequel? Parce qu'il y en a plusieurs.
Hein. Oui, mais je préfère finalement celui derrière le Carrefour City, avant le McDo.
Vous prenez quoi au kebab? Vous prenez toujours le même menu?
Non. Je prenais des tacos, déjà. Je prenais des tacos. Et après, j'ai découvert les wraps. Et ça, j'adore. C'est mes préférés.
On parle nourriture. Ouais. Est-ce que vous avez un plat favori, que ce soit un plat que vous cuisiniez ou que vous mangiez?
Ouais. Alors, le plat principal que je fais, déjà, je le fais au four. Et c'est plus de la viande, quoi. Alors, je mets du poivron et du poivre. Je mets du piment, du sel.
C'est okay, tout. Mais c'est pimenté.
Basique, quoi. Ah oui, très pimenté, très épicé. Et laissez-moi vous dire que je suis un très bon cuisinier. Ça aussi, c'est une partie de moi. Et en même temps, je fais des dessins, des paysages. Je fais des dessins d'observation au crayon parce que je maîtrise les ombres et les lumières. Et donc voilà, c'est tout ce que je fais quand je suis chez moi.
On arrive aux dernières questions sur un peu des œuvres culturelles qui ont pu marquer votre vie. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a marqué
Alors,
plus que les autres?
Damso, surtout soprano à la base. Nino, évidemment, dans un certain style. Et il y a Orelsan,
Et alors, s'il fallait choisir un morceau...
Damso, j'ai plus trop le titre, mais le sens est... Ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de moi. Et j'ai fait pas mal de neige, j'ai fait pas mal de chemin. Loin de la précarité.
Oui, il me propose Mosaïk solitaire.
C'est pas que je suis là.
Ouais. J'ai renoncé à la précarité, j'ai mis mes chances dans le barrier. J'ai tiré sans jamais m'arrêter. Rosemark, tu veux qualité, grosse liasse la mentalité. Plus de sable dans le sablier, plus de place dans le paradise. Dame solitaire. Ouais, ouais.
Yania avec le morceau Keep on Calling. C'était ma sélection musicale à moi, à retrouver sur un disque qui s'appelle Inside Out, c'est sorti en 2021, une compilation des précédents EP de cette guitariste et chanteuse britannique qui a depuis sorti un album en 2022, si je ne me trompe pas. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène, l'émission d'information locale, et on est vendredi, jour de newsletter. Le courrier de l'arène, c'est un document que j'envoie aux personnes qui le souhaitent, et qui est une forme de résumé des sujets évoqués durant la semaine dans l'émission. Si vous souhaitez vous y abonner, ça se passe sur notre site internet à travers un formulaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Allez, avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements, de lectures, de podcasts, de documentaires et parfois d'associations à suivre. Aujourd'hui, deux conseils pour votre dimanche. Premier conseil, c'est un marché de producteurs à l'écomusée de la Bintinet à Rennes. Ça se passe dimanche de 14h à 18h. Une mise en lumière du travail des producteurs de race locale, pour lesquels l'écomusée mène justement un travail de conservation. Particularité cette année, l'association des paysans producteurs de gouëlle a carte blanche pour fêter ses 30 ans. Le gouëlle, c'est une spécialité bretonne de Basse-Bretagne, un lait fermenté qui peut servir de levain pour produire crème, beurre et fromage au lait cru. La production a été relancée dans les années 80 par des éleveurs de vaches bretonnes pinoires, une des quatre races avec lesquelles on peut faire justement du gouëlle. Et étant peu utilisé par le grand public, eh bien, l'événement de dimanche sera l'occasion d'en déguster, de découvrir des recettes, et on trouvera également sur les étals de la viande, du fromage, des légumes et du pain. Deuxième recommandation, un prélude pour perceuse à percussion et flûte. Oui, oui, c'est à écouter toujours dimanche à 16h dans le jardin de la Garden Party à Rennes. Le quatrième opus du projet Building, symphonie d'un nouveau quartier, qui a été initié par l'association Ars Nomadis dans le quartier Beauchardonnais. Et cette fois, rencontre inédite en partenariat avec le pont supérieur entre la flûtiste Justine Viry et le maçon coffreur brancheur Faiswal Ahmadi. Un prélude qui a été composé par Alexandre Rubin et qui semble révéler une complicité artistique entre deux mondes sonores aux antipodes l'un de l'autre. Cette performance, elle dure en tout une heure. Elle sera en fait précédée d'un concert pour guitare, violoncelle et flûte traversière. Et ce sera aussi l'occasion ce moment de découvrir un portrait d'ouvrier grand format en présence de la photographe Caroline Ablin. Vous pourrez enfin écouter les podcasts d'étudiants de l'EUR, École Universitaire de Recherche, CAPS, 4 lettres pour Creative Approach of Public Space. Pour participer à cet événement, il faut quand même penser à réserver sa place. Ça se passe par email à l'adresse mediation@arsnomadis.eu. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.